qui a découvert l'Amérique par Jean Lecoq. D'abord, il y eut les Vikings, ces hardis pirates scandinaves qui, au IXe siècle, parurent sur nos côtes et remontèrent nos fleuves à bord de leurs barques à deux voiles, portèrent leur déprédation non seulement dans tout l'empire de Charlemagne, mais jusqu'en Italie, jusqu'en Sicile, jusque dans le califat de Cordoue. Ils se lançaient à travers les mers sur leurs frêles navires, se riant des vents et des flots. « La force de la tempête, chantait-il, aide le bras de nos rameurs. L'ouragan est à notre service. Il nous jette où nous voulons aller. » L'ouragan dut même les jeter quelquefois sur des côtes où ils n'espéraient pas aborder. C'est ainsi que des Vikings durent s'égarer jusqu'au rivage du Groenland, à la même époque où leurs frères semaient la terreur dans nos provinces maritimes. Une tradition scandinave assure qu'en l'an 982, une colonie norvégienne vint s'établir au Groenland. Leif, fils d'Erik Randa, fondateur de cette colonie, se serait embarqué un peu après l'an 1000 et serait parti vers le sud à la découverte. Il aborda, dit la légende, sur une côte où il trouva des hommes avec lesquels il fit le commerce des pelleteries. Il baptisa ce territoire du nom de Vinland, pays du vin. Quel pouvait être ce point de la côte américaine où la vigne poussait en ce temps lointain? Du moins, croyait-on, jusqu'à présent, que les Scandinaves n'avaient fait qu'aborder et séjourner sur les côtes sans pénétrer dans l'intérieur des terres. Mais une découverte récente apporte sur ce point des lumières nouvelles. À Spokane, dans l'État de Washington, au pied même des montagnes rocheuses, on vient de découvrir une inscription runique qu'un professeur norvégien, M. Opsion, a pu déchiffrer. Ce texte, qui date d'un millier d'années, relate le débarquement d'une troupe de vikings, leur lutte avec les indiens et l'ensevelissement dans une grotte toute proche des corps de plusieurs de leurs tués dans un combat contre les indigènes. Les chroniques islandaises et norvégiennes rapportent que pendant plusieurs siècles, des colonies originaires de ces deux pays vécurent dans la région qu'elles désignent sous le nom de Vinland. C'est au XIIe siècle seulement que cessèrent les rapports entre le Vinland et les pays scandinaves. Les communications entre la Norvège et le Groenland s'étaient ralenties. Les Vikings étaient devenus moins entreprenants. Les habitants du Vinland eux-mêmes avaient dû oublier l'Europe, d'où étaient partis leurs ancêtres. À partir de cette époque, il n'est plus une seule fois dans les annales scandinaves question du Vinland. L'Europe avait perdu de vue cette route et ce fut Cabot qui, à la fin du XVe siècle, plus de 400 ans après les premiers explorateurs Northmen, Normands, Cabot, entraîné par l'exemple de Christophe Colomb, qui remit le premier la navigation sur cette ancienne voie. Quoi qu'il soit impossible, dans l'absence de monuments, de fixer avec exactitude la position du Vinland, les savants estiment en général que ce premier établissement des Européens en Amérique devait se trouver sur la côte du Labrador. Cependant, trois siècles plus tard, des Scandinaves encore, mais des Danois, cette fois, et non plus des Norvégiens, devaient redécouvrir ces mêmes rivages où les aventuriers vikings avaient abordé. Le docteur Sophus Larsen, directeur de la bibliothèque de l'Université de Copenhague, a découvert récemment des documents du plus haut intérêt sur un voyage d'exploration qu'à la demande du roi de Portugal, Alphonse V, le roi de Danemark, Christian Ier, fit effectuer par deux amiraux danois, Pinning et Brothorst, secondés par un habile pilote, Johannes Kolvus. L'idée du roi du Portugal n'était point de découvrir un continent inconnu. Il s'agissait seulement de rechercher par les mers arctiques un passage pour se rendre à ce qu'on appelait alors le pays du poivre, au Cathay, c'est-à-dire à la Chine. Ces flottes, jusqu'alors, perdaient un temps infini à contourner l'Afrique. Pourquoi ne tenterait-on pas de trouver une route plus courte par le nord? Mais les Scandinaves étaient les maîtres de ces mers nordiques. L'exploration leur en était familière. Voilà pourquoi le roi de Portugal demanda au souverain danois de se charger de l'exécution de son projet. L'expédition partit, en 1472, de la côte occidentale de l'Islande. Elle débarqua d'abord à la côte occidentale du Groenland, où elle fut attaquée à plusieurs reprises par les Esquimaux. Elle se rembarqua, et cherchant toujours le passage vers l'ouest, elle l'aborda sur la côte américaine, en un point voisin de l'embouchure du Saint-Laurent. Puis elle atteignit aussi le Labrador. Elle n'avait point trouvé le passage qu'elle cherchait pour parvenir en Extrême-Orient par les mers septentrionales. mais elle avait découvert le continent américain auquel, 20 ans plus tard seulement, Colomb devait aborder. Mais ce n'est point seulement dans les pays du Nord qu'il faut chercher les précurseurs du grand génois. Il existe une vieille tradition diépoise qui assure qu'un navigateur de cette ville aurait, 4 ans avant Colomb, abordé, non plus comme ce dernier en Amérique centrale, non plus comme les Scandinaves en Amérique du Nord, mais sur la côte de l'Amérique méridionale à l'embouchure du fleuve des Amazones. On sait que les marins diépois étaient alors parmi les plus aventureux de l'Europe. Dès le XIVe siècle, ils étaient renommés pour leur habileté, leur science de la navigation et la perfection apportée dans la construction de leurs navires. En 1339, quand partit la fameuse flotte qui devait être anéantie à la bataille de l'Écluse, les marins des autres ports ne tarissaient pas d'admiration sur les qualités des bateaux diépois, sur leur vitesse et sur l'habileté de ceux qui les montaient. L'année suivante, associée à la corporation des marchands de Rouen, celle des marchands de Dieppe avait frété 4 bâtiments qui, de nouveau, partirent à l'aventure sur la côte occidentale de l'Afrique. Une colonie fut fondée sur la côte de l'or, à laquelle les explorateurs donnèrent le nom de Paris pour le grand accueil et la douceur avec laquelle les habitants de ce lieu les reçurent, dit un historien de ces campagnes lointaines. Malheureusement, les guerres avec l'Angleterre interrompirent cette ère de conquête coloniale. Pendant ce temps, les Portugais s'étaient avancés tout le long de la côte d'Afrique et s'étaient emparés des établissements fondés par les Diépois. Quand, la guerre finie, ceux-ci s'en revinrent vers la côte de l'or, ils furent reçus à coups de canon. Force leur était donc de chercher ailleurs d'autres buts d'exploration, des terres nouvelles dont ils pourraient en paix exploiter les richesses. C'est alors que les armateurs diépois firent construire un fort navire capable de tenir longtemps la haute mer et qu'ils en confièrent le commandement à celui que chacun considérait comme le plus hardi, en même temps que le plus savant capitaine de la flotte diépoise, à Jean Cousin. Jean Cousin avait-il l'intuition que ces terres nouvelles, qu'on l'avait chargé de chercher, il les trouverait non plus en Afrique, mais vers l'ouest? La tradition assure qu'un prêtre de la ville qui lui avait donné des leçons de mathématiques, de géographie et d'astronomie, lui avait conseillé de suivre cette voie nouvelle sans se préoccuper de ce qu'avaient fait ses devanciers. Toujours est-il que dès sa sortie du port, c'était au début de l'année 1488, Cousin, au lieu de longer les côtes, se lança délibérément au large. Saisi et emporté par le grand courant équatorial, il aurait abordé, 2 mois plus tard, sur une terre inconnue, à l'embouchure d'un grand fleuve qui n'était autre que l'Amazone. Cousin avait comme second à bord de son bâtiment un Espagnol, nommé Pinzon, qui pendant le voyage se montra insubordonné, arrogant et excita une révolte dans l'équipage. À son retour à Dieppe, Cousin porta plainte contre Pinzon, qui fut renvoyé du service de la ville par décision des officiers de la commune exerçant alors la juridiction maritime. Dans son Histoire des navigateurs normands, Estancelin fait à ce sujet une hypothèse intéressante. « Ce Pinzon, dit-il, ne pourrait-il pas être le même que celui qui fut associé à la première expédition de Christophe Colomb et qui méconnut aussi l'autorité de l'illustre génois ? » Estancelin observe avec raison que le fils de Colomb, dans la relation qu'il a écrite du premier voyage de son père, ne nie pas que Pinzon fut consulté par lui dans toutes les occasions difficiles, non comme marin, mais en faisant appel à sa science hydrographique, peut-être aussi à ses souvenirs. Et toujours Pinzon conseillait à Colomb de cingler vers le sud-ouest, dans l'espoir, qui sait, de retrouver le courant favorable déjà éprouvé par lui. Malheureusement, la découverte fortuite de l'Amérique par le Diépois Cousin ne s'appuie que sur des traditions. Les journaux et les mémoires des anciens voyageurs de Dieppe étaient déposés dans les archives de la ville. Ces archives ont été brûlées lors de l'incendie qui détruisit la ville en 1694, incendie causé par les bombes de la flotte anglaise. Quoi qu'il en soit, comme la découverte de Cousin n'a pu être que l'effet du hasard et n'avait aucune conséquence utile, elle ne peut diminuer en rien la gloire de Colomb qui avait découvert théoriquement des terres nouvelles avant d'y avoir abordé. Colomb, en effet, s'il n'a pas touché le premier la terre américaine, en a du moins trouvé la route scientifiquement en partant du principe alors méconnu de la sphéricité de la terre. Que cherchait-il en allant vers l'Occident ? Était-ce une voie nouvelle pour atteindre au pays d'Extrême-Orient ? Beaucoup d'auteurs l'ont prétendu, mais d'autres assurent que Colomb savait, par les rapports des navigateurs qui avaient déjà exploré l'Atlantique, que vers l'ouest se trouvait une terre qui n'était pas le continent asiatique, une terre que certains appelaient Antilia. Et c'était vers cette terre que le grand navigateur tournait les yeux. C'est à cette terre, aux Antilles, finalement, qu'il aborda. Colomb, en partant de Palos, le 3 août 1492, allait donc vers un but qu'il s'était scientifiquement fixé. Et c'est pourquoi rien ne saurait diminuer sa gloire et rabaisser son génie. Ainsi s'achève « Qui a découvert l'Amérique » par Jean Lecoq.